Torréfaction est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 231e épisode de Torréfaction, je suis de retour, ouais.
Ouais, t'es qui? Je sais même pas qui t'es, dis les noms, putain, dis les bails. Bonjour Faskil, comment
bonjour
ça va?
Bonjour Caféine, eh ben écoute, ça va mieux.
Non, franchement, tu nous as fait une intro à la base, genre Bombadil, tu vois, Je t'imagine dévalant la colline, je suis de retour, oui.
Bah ça m'avait manqué l'air de rien de pas pouvoir faire des bouts podcasts, donc bah voilà, je suis content d'être de retour, je suis content qu'on relance un petit peu la machine, et puis ça manquait de manière générale, parce que bah il y avait aussi il y a les démons du midi qui sont en attente là dans les starting blocks pour sortir leurs deux derniers épisodes, et puis il y a les clairvoyants aussi, on a bidouillé un truc en live il y a 2 mois maintenant, mais c'est vrai que c'était un petit
non,
peu différent.
Non, il y a moins de 2 mois, on l'a fait à la fin de juillet en fait. C'est le ça. Dernier vrai podcast des clairvoyants, c'était il y a 2 mois, parce qu'il est en juin.
Ouais.
Et on a fait un truc en vidéo only, c'est pour ça qu'en fait les gens qui suivent que les RSS ne l'ont pas vu passer, parce qu'effectivement on l'a pas extrait. Et puis on a des podcasts genre mémoristiques qui sont dans les limbes.
Tout à fait, qu'il va falloir qu'on lance aussi. Bah disons que c'était on va pas s'étendre trop non plus sur le sujet, mais c'est vrai que c'était une période un peu difficile pour moi, parce que le moral était aussi cassé que le bras, et du coup faire du mémoristique quand t'as pas le moral, c'est pas vraiment génial. Je me suis dit que j'allais vous épargner ça, mais là ça va mieux, donc on va pouvoir reprendre les affaires et on va se recaler un petit après-midi pour continuer de feuilleter nos anciens joysticks. Je pense qu'on a bien besoin de nostalgie en ce moment, donc on va se plonger dedans avec plaisir.
Faut voir, je ne vois pas de quoi tu parles, cette année se passe exactement comme prévu, tout va bien, il n'y a pas d'inflation, pas de guerre,
c'est moi, ça.
Dans ma bulle, tout va bien. D'ailleurs, vous allez voir, je vous ai mis un peu de K-pop et d'animé, parce qu'il faut fêter le retour de Faskil,
c'est ça.
Il faut qu'il se rappelle un petit peu de
on
la
m'accueille
vie,
avec des cadeaux, tu vois.
C'est génial, tu vois, c'est du bon, en plus tu vas aimer.
Allez, on attaque tout de suite avec le gaming, et tu voulais nous parler de la version 2 d'Overwatch, qui est pas vraiment une version 2, si j'ai bien compris la manière dont tu l'as noté dans la conduite.
Ouais, parce que j'ai fait une petite vanne pour nous deux, dans la conduite, je l'ai marqué Overwatch 1.2, effectivement, avec des petites parenthèses autour du 1.1, parce que, oui, c'est un remix, en fait. Hein. C'est une remix edition, à tel point que quand vous l'installez, en fait, c'est le folder Overwatch, il n'y a pas de du tout dans le folder, et ça se gère comme une update, pour le client Battle.net, il n'y a aucune surprise, puisque c'est un peu ce qu'ils avaient dit quelque part, donc de ce côté-là je ne vais pas leur lancer des cailloux. Ils ont effectivement essayé de sauver leur bébé, puisque Overwatch, le premier du nom, on peut pas dire que c'était le succès extraordinaire sur les dernières années, mais parce qu'ils avaient vraiment commencé à bosser sur cette version 2. Et du coup, ils n'avaient pas franchement continué les évolutions hardcore sur la version 1. Ça s'était un peu senti sur l'intérêt des joueurs. Et puis, de toute façon, ils avaient des problèmes d'équilibrage. Le titre était lourdement critiqué à cause de ça. Et du coup, cette version 2, elle apporte pas grand-chose, en fait. Donc, je vous ai linké la page Open Critique sur le billet qui accompagne le podcast, comme d'habitude. Vous allez voir que les notes sont excellentes. Hein. On est sur du 8, 9 sur 10 à peu près partout. Les gens sont contents. Oh là là, c'est génial, etc. Pas parce que le premier était pas mauvais. Moi, j'ai un problème avec Overwatch. C'est que j'aime pas le jeu. J'ai jamais aimé Overwatch, de toute façon. J'y ai joué beaucoup, mais ça n'a jamais été mon FPS de cœur. C'est pas un titre que j'affectionne particulièrement. J'aime bien le design, j'aime bien l'univers, j'aimais bien les premières vidéos qu'ils avaient sorties.
Je trouve ça trop speed, moi, en fait.
Mais, alors, moi, j'ai deux problèmes. C'est que déjà, c'est vite le bordel avec certains héros, mais c'est surtout qu'en plus, le time to kill dans certaines circonstances est soit trop lent, soit trop rapide. C'est-à-dire qu'il y a des héros, tu comprends pas pourquoi ils crèvent jamais qu'on fasse. Et il y en a, toi, t'as l'impression de mourir tout de suite, ou des fois t'arrives à buter un mec instantanément. Alors évidemment, quand tu connais les maps, quand tu connais les héros, quand tu connais les interactions, ça fait plus sens. Et évidemment, une traceur dans ton dos, ça restera un cancer jusqu'à la fin des temps. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un perso qui peut se téléporter, revenir sur ses pas instantanément, etc. Et moi, la version 2, je comprends pas pourquoi, en fait, ils ont pas juste fait évoluer la version 1 en disant bon bah les mecs, on a refait les menus, on a fait du 5v5 au lieu du 6v6 et on y va, on passe en free-to-play. Finalement, ils ont fait une 2 Donc la plus grosse annonce du truc, c'est que ça passe effectivement free-to-play avec un Battle Pass, comme à peu près tous les gros titres de chez Riot et compagnie en ce moment. Bon ben voilà, c'est du game as a service officiellement, il y a plus de thunes à sortir au départ, et vous pouvez effectivement acheter un pack à $40 ou 40 euros je crois, pour avoir des skins, des personnages, etc. Et si vous aviez Overwatch 1 avec plein de trucs de débloquer, tout est porté dans Overwatch 2, puisque c'est le même jeu en fait. Ils ont rajouté quelques trucs, genre il y a un nouveau mode graphique, il y a des trucs où c'est un peu plus joli, ils ont quand même fait évoluer un petit peu le moteur et certains looks des personnages, il y a des nouvelles cartes, etc. Donc si vous aimez le style du jeu, la version 5v5 est un peu plus intéressante parce qu'il n'y a plus qu'un seul tank dans chaque équipe, avec deux healers et trois et des DPS en fait. Mais les rôles sont assignés en début de game, donc vous pouvez changer de rôle, mais pas au sein d'une même partie. C'est-à-dire que si vous êtes un damage dealer, vous serez un damage dealer jusqu'à la fin. Si vous êtes un tank, vous serez un tank jusqu'à la fin, etc. Donc on est sur un système qu'ils ont essayé d'un peu de rationaliser pour avoir des parties plus intéressantes et plus équilibrées. Bon voilà, c'est très honnêtement un système qu'on a déjà vu avec un peu la sélection de rôle, etc. dans les MOBA, c'est un truc qui n'est pas nouveau, ça fonctionne, les gens là du coup n'ont pas le choix, ne peuvent pas décider au dernier moment de passer en mode snipe parce qu'ils ont décidé que, faut qu'ils restent, tu peux changer en fait dans ta partie au sein des héros de ta classe.
D'accord.
Donc à chaque fois que tu crèves, tu peux revenir avec un héros différent si tu veux, mais ça sera toujours un tank, ça sera toujours un healer, en fonction du truc que t'as choisi. Donc le voilà, le résultat est de toute façon attendu, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu hyper propre. J'ai pas les notes que je viens de citer sont la preuve que le boulot a été effectué. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous aimiez pas Overwatch, bah vous allez continuer pas l'aimer. Et si vous kiffiez, bah vous allez vous y remettre. Il y a énormément de gens sur le jeu. Le lancement s'est fait comme un lancement Blizzard classique, c'est-à-dire que ça marchait pas. Ils ont eu des problèmes de serveur, il y a des queues qui sont hallucinantes. Alors ils ont expliqué pourquoi. Techniquement, je vais pas vous faire chier avec ça. En plus, a priori, ce serait manger des attaques DDoS. Donc ils ont eu un peu tous les problèmes du monde, ce qui fait que le lancement s'est très mal passé. Maintenant c'est un peu plus facile pour y jouer, vous n'avez pas trop d'attentes, même si vous voyez 300 personnes devant vous, ça devrait aller relativement vite. Mais j'attendais un peu plus de cette version 2, je pensais pas que ça serait autant un remix que ça. Et bah du coup voilà, j'y ai joué un peu avec les gens de Geekzone et je vais retourner sur Valorant et compagnie. Celui-là c'est vraiment pas ma cam, je verrai, je ferai des efforts. Cela dit, notez hein, faites des extraits, rappelez-vous que c'est Torréfaction 231, j'ai dit que j'aimais pas Overwatch.
Oui,
la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour Valorant. On sait comment ça s'est fini, donc bon, je fais quand même attention.
Et on reste dans le gaming avec une suite pour Cyberpunk 2077. Hein, déjà.
Ouais, parce que en fait, j'avais annoncé que j'étais étonné de les avoir entendu dire que bon, bah voilà, super, Cyberpunk, c'était génial, mais c'est terminé, il y aura un seul DLC et bisous. Mais en fait, on s'était pas compris. Moi et les gens de chez CD Projekt Red, c'est qu'en fait, oui, il n'y aura pas forcément beaucoup de DLC pour Cyberpunk 2077, parce qu'en fait, ils vont carrément faire une suite au jeu lui-même et pas continuer de faire vivre cette licence-là, mais l'univers va continuer d'évoluer. Donc, ils ont annoncé une suite qui va s'appeler, pour l'instant, nom de code, c'est Orion. Mais on n'en sait pas plus, il n'y a pas de date, il n'y a rien, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu fait pour moi, ce communiqué, tu vois. Genre, mais tout, parce qu'en fait, il y a plein de débiles comme moi qui n'ont pas compris leurs dernières annonces, où ils ont fait, genre, bah voilà, on va sortir ce DLC, ça sera super, 2023, vous allez vous éclater, gna gna gna, et puis après, bisous. Et puis j'étais là, genre, c'est bizarre, parce que ça s'est quand même bien vendu, et puis la série sur Netflix, ça marche super bien, et puis elle est cool, ils vont quand même pas flinguer l'univers. Bon, en plus, effectivement, j'adore le cyberpunk, donc moi, j'en voulais plus, quoi. Donc voilà, on s'était pas compris, il y aura une vraie suite, c'est juste que là, parfois, ils vont pas annoncer de date tout de suite, hein, on les connaît, mais du coup, ça va continuer à vivre, et c'est une très bonne nouvelle. Je vous ai linké une petite news de chez Naufrag, où il n'y a pas grand-chose, si ce n'est le trailer, si vous l'avez raté, il y a un... pas vraiment un trailer, c'est plus un teaser pour le DLC Phantom Liberty qui sortira l'année prochaine.
Et puis on reste dans les bonnes nouvelles, mais on passe du côté des apps avec l'arrivée enfin de Spark sur Windows. Ouais.
Incroyable.
On n'y croyait plus, effectivement.
Ouais, on n'y croyait plus, et d'ailleurs, j'y crois plus du tout maintenant, moi.
Ah merde.
Et oui, parce que je n'ai pas mis d'infos dans la conduite, donc Fasque ne sait pas que Spark sous Windows, c'est de la grosse daube. Mais ah, revenons en arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Spark, c'est un client mail à la base dont je dis énormément de bien sur iOS, Windows et Android depuis très très longtemps et dont on attend la version Windows depuis encore plus longtemps. Enfin, ils ont annoncé tout de suite, il y a des années maintenant, qu'ils allaient faire une version Windows. Mm-hmm. Et on se disait, bah cool, maintenant tu y vas, on attend ta version Windows. Et puis ça fait des années qu'on attend, on ne voyait rien venir. Et puis là, ils sortent ça par surprise. Cette semaine, il n'y avait pas eu d'annonce avant, on ne savait même pas que c'était prévu. Bon, bah très bien, super, génial. En même temps, ils nous balancent des updates de toutes les versions pour mettre à jour en gros l'icône, hein, parce qu'ils n'ont pas changé grand-chose dans les versions existantes. Et ils rajoutent en fait une version premium avec un système d'abonnement. Mmh. Donc il y a un changement de business model et la version Windows qui arrive. Donc tout le monde en mode genre, qu'est-ce qui se passe ? Changement de business model quand tu offres une app qui était très largement gratuite et dont uniquement la version équipe, en fait, une version team qui permet de bosser un peu comme si on était dans un Slack, faire des mails à quatre mains, etc. Il y avait que ça qui était payant. Donc là, ils arrivent avec une version genre, oui, vous allez pouvoir enfin payer des trucs parce que bah c'est bien l'argent quand même, nous on aimerait en avoir aussi. Et ça a grincé un petit peu des dents, évidemment. Mais moi, j'étais en mode, bon, bah écoutez, c'est normal, hein, il faut payer les développeurs. Pourquoi pas, ils annoncent un prix à environ 70 euros par an. Mmh. Je me dis, bon, c'est un peu cher pour un client email, mais pourquoi pas, puisqu'il est si bien que ça, tu vois. Et puis, il y a toujours un accès gratos où ils avaient quand même rajouté, tu sais, un Send by Spark à la fin de tes mails que je déteste. Ouais. Bon, alors ça, ça a tellement gueulé que ça a déjà viré, hein, okay. Entre le moment où je l'ai mis dans la conduite cette semaine et le moment où je vous en parle. Mais la problématique, c'est la version Windows, puisqu'en fait, ils sont en train de changer le design du soft, c'est-à-dire qu'ils passent d'une version qui était codée en SwiftUI, qui est le langage natif pour les produits Apple, et avec des petites adaptations pour pouvoir le faire tourner sur Android, ils sont passés à un truc extrêmement classique, c'est-à-dire du Electron, avec donc un cœur JavaScript comme un site ou une web app, si tu veux, et du Electron autour pour faire tourner tout le bordel.
Et bim, ton app prend 200 mégas.
Alors, déjà, après, Electron, moi, je dis oui, c'est de la merde, mais il y a des manières de le faire proprement. Mm-hmm. Les gens de chez 1Password l'ont prouvé avec la version 8. Ça a beaucoup râlé quand ils ont annoncé le truc. Finalement, le résultat est très, très propre, mais parce qu'en fait, ils gardent vraiment très très peu, ils font vraiment eux quasiment toute l'app elle est avec autre chose et le Electron il est réduit à vraiment le minimum possible, ce que ne font pas plein d'autres applications. Donc tu te dis bon, voyons voir ce que ça donne. Et là en fait le drame c'est que Spark, je sais pas pourquoi ils ont sorti Spark Windows maintenant, parce qu'en fait le produit n'est pas prêt. En interne, en fait, ils appellent ça, enfin en interne, maintenant ils communiquent avec le nom Spark 3. La version qu'on a sur macOS et dans nos téléphones et compagnie, c'est Spark 2 officiellement. Mm-hmm. Et Spark 3, en fait, ils ont rajouté tout plein de trucs pour optimiser ta productivité.
Oh non.
Et c'est de la merde, parce qu'on n'en a pas besoin. Et au passage, ils ont oublié plein de trucs, genre les templates, qui étaient quand même un truc super important dans Spark. Donc il y a des mails que tu pouvais pré-remplir et balancer direct. Tu n'as pas de vision de tes mails avec genre le 3 panneaux, le truc de base. Avec tes comptes, ta liste de mails et puis le texte de ton mail. Non, non, là, c'est juste une liste de mails et tu cliques dessus, ça ouvre le mail et des trucs extraordinaires du style, tu peux ouvrir qu'un seul draft à la fois. Parce que c'est une web app de merde, en fait, tu vois, qu'ils ont mis sur Windows pour l'instant. Et donc, dans les features qui doivent arriver, on a des trucs genre, oui, plusieurs drafts à la fois. Bah écoutez les mecs, c'est gentil parce que ça me paraît un petit peu la base. Enfin, je sais pas comment vous bossez sur vos mails. Moi, ça m'arrive souvent d'ouvrir plusieurs drafts. Soit c'est parce que tu prends des notes pour envoyer un mail à quelqu'un, soit parce que tu commences une réponse à quelqu'un et tu veux pas oublier. Bon, ça peut être le bordel, hein, n'en faites pas trop. Mais c'est quand même la base. Et puis, il y avait un truc qui était vachement apprécié sur la version macOS. C'est les intégrations avec les autres applications. Donc, Zoom, Todoist, Asana, OneNote, etc. Tout ça, ça a dégagé. Il y a aucune intégration dans la version Windows.
Un peu léger, tout ça.
Bah ouais. Et puis, alors, le look de l'application qui veut t'aider en mode genre, fond d'écran à la con, la journée de travail est finie. Donc là, je te montre même pas ton inbox, sauf si tu cliques sur un bordel. Genre, foutez-moi la paix, en fait. Foutez-moi la paix.
Laissez-moi gérer ma life.
Mais ouais. Et il n'y a pas d'option pour désactiver cette merde, hein.
Ah merde.
Non. Il n'y a pas. C'est juste comme ça et c'est fini. Tu vois, à tel point, je me suis dit, on aurait dû mettre un jingle au début de cette rubrique. Mais franchement, ça m'a vraiment vénère parce que j'adore le logiciel sous macOS et sur mes téléphones.
Moi, je l'utilise sur Android depuis que tu me l'as recommandé et honnêtement, je suis super fan aussi. Hein.
Truc fonctionne très bien. Tu gères plusieurs comptes et tout. Ils ont un défaut historique sur cette application. d'animation, qui est que la gestion des folders est un peu clunky. Oui. Quand tu veux mettre des folders en avant, etc., c'est pas évident, faut comprendre comment ça marche, tu peux pas créer de folder en direct. Bon, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui pourraient être améliorables. Non, non, là, ils ont voulu faire une application, genre, on va vous aider, et c'est une catastrophe. Donc, pour l'instant, on s'énerve pas. Je vous ai linké, en fait, la page officielle, le blog d'annonce de la nouvelle version, avec l'arrivée de la version Windows, et surtout, le truc qu'ils ont rajouté en catastrophe, la page Features, avec les trucs qui manquent dans Spark 3 et qu'ils vont rajouter. Sauf que, évidemment, attention, il n'y a pas de date, il n'y a rien, juste que ça doit arriver. Mais moi, ce qui m'étonne le plus dans ce lancement, c'est qu'en plus, il manque plein de trucs hyper importants dans la version Team, qui est la version qui leur faisait gagner du fric, tu vois. Donc, pourquoi faire ça comme ça? Alors, est-ce qu'ils sont cash-strapped, comme disent les Ricains? Est-ce qu'il y a un petit problème de finance et qu'ils se sont dit, faut qu'on fasse le truc maintenant? J'en sais rien, mais ouais, franchement, le résultat est pas bon. Donc, on met ça de côté pour l'instant, et puis on y reviendra quand ils sortiront une version un peu plus élaborée. Si vous voulez installer la version Mac, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a aucun problème. Toutes les autres versions fonctionnent très bien, mais la version Windows, pour l'instant, c'est une horreur. Et oui, et puis j'ai oublié de dire le plus important. Excusez-moi, je finis sur un truc rigolo. C'est qu'en plus, ça plante, mais un truc de ouf.
Ah merde.
Ça plante. Moi, je l'ai fait planter, mais je sais pas combien de fois en testant des features à la con. Donc, voilà, je regardais le feed Twitter et ça râle très, très fort sur. Donc, voilà, n'y allez pas tout de suite.
Eh ben, me voilà fort déçu. Ah, allez, on passe du côté de la culture. Et tu voulais nous parler d'un truc, c'est quoi? Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, c'est ça?
Eh oui, parce que le titre, il fait 3. Je suis content que tu sois revenu pour pouvoir prononcer les trucs à ma place.
De 4 km, ouais, merci.
Donc Gundam, notre ami Gundam, les robots géants japonais.
Ça je vois, oui.
Voilà, tu connais. Il y a 1 milliard de séries Gundam qui existent, évidemment, puisque nos amis de chez Sunrise sont très potes avec nos amis de chez Bandai, et que quand même le but avoué derrière, c'est de vendre des Gunpla, des maquettes de Gundam en l'occurrence, et que je suis très content d'avoir deux mains gauches et de je peux pas sombrer dans ce hobby, tu vois. Et ça c'est cool, parce que sinon j'y serais allé, hein, mais genre à pieds joints. Et je voulais en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, le titre que tu viens de citer, The Witch from Mercury, n'est-ce pas? Il y a eu un prologue, en fait. Genre, tu sais, la première dose de drogue est gratuite.
Ouais, je vois.
Balancé sur YouTube le 31 août, que je vous conseille d'aller voir, sauf si vous allez vraiment pas bien, parce que c'est quand même l'ambiançage sur ce prologue, il est moyen, je vous cache pas. Les univers de Gundam, c'est un peu la guerre, c'est un peu... Voilà. C'est pas la joie tout le temps, hein, je vous préviens. Et pour annoncer, justement, la sortie de cette série Witch from Mercury qui vient en fait de commencer sa diffusion au mois d'octobre, donc c'est pour ça que j'en parle que maintenant. Ils avaient fait la promo un petit peu en avance, un mois avant, et ça s'annonce plutôt sympa. Apparemment le ton de l'animé devrait être un peu plus léger, mais moi j'y crois pas, parce que pour l'instant il y a qu'un épisode de diffusé, donc on n'en sait rien. Et connaissant les ozos, voilà, je suis pas persuadé qu'on soit sur un truc qui soit hyper joyeux. En revanche, si vous voulez des intrigues politiques, des combats de robots et un truc qui a l'air plutôt bien réalisé, je pense que vous pouvez y aller. C'est en tout cas, je voulais en parler, puisque c'est gratos, avec tous les sous-titres dans toutes les langues. Profitons-en, les amis. Pour une fois, je suis pas obligé de vous dire, allez demander à Bob VHS.
Oui, c'est ça.
C'est déjà pas mal, quand même. Sauf si vous voulez regarder la série derrière, parce que je n'ai pas regardé chez qui elle était diffusée, si elle était prise en simulcast ou pas chez nous. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, j'ai une information pour vous, je fais une aparté sur un dessin animé que j'avais recommandé cet été qui s'appelle Summertime Rendering. En fait, les droits ont été achetés par Disney.
D'accord.
Au niveau mondial.
Okay.
Et c'est diffusé nulle part.
Bah super, merci Disney.
Voilà, et on n'a pas de date. Alors apparemment, c'est la deuxième fois qu'ils font. Enfin, il y a deux séries comme ça où ils ont acheté tous les droits, et c'est sur Disney Plus au Japon. Mais en fait, c'est pas prêt. Je sais pas s'ils veulent faire. J'espère qu'ils sont pas en train de faire des dubbings pourris. Donnez-nous juste les sous-titres. On va les regarder en japonais de toute façon, nous. Hein, laissez-nous tranquille. Donc voilà, c'était pour vous filer l'info. Et je suis désolé, mais effectivement, il faut aller les choper chez Bob VHS, celle-là aussi. Voilà.
Et on reste dans la culture, et je voulais vous parler de Magdalena B. J'en avais déjà parlé parce que c'était mon album, un de mes albums préférés de 2021. Et puis là, en fait, ils ont ressorti l'album dans une édition deluxe avec des tracks inédits, des remixes, des versions alternatives, etc. Vous connaissez la rengaine. Et donc, je voulais en remettre une couche parce que c'est vraiment un duo que moi j'aime beaucoup. C'est un duo californien. C'est une petite nana et un mec. Et voilà, ils font une espèce de pop électro très sucré, très agréable, très douce, qui convient parfaitement au mood actuel. Et on va écouter un extrait d'ailleurs, un inédit de cette édition de luxe de l'album Mercurial World de Magdalena B. Le morceau s'appelle Something for Two et c'est un remix signé Cécile Believe. Something for Two, le Cecil Believe Remix, c'était Magdalena Bay, tiré donc de l'album Mercurial World dans son édition Deluxe. Et puis tu voulais nous parler de musique aussi avec Solgi, c'est comme ça que ça se prononce?
Ouais, Solgi en fait.
Solgi, ok.
Solgi chez nous, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Après, je te confirme qu'on doit aussi massacrer son prénom, quelle que soit la manière dont on le dit, puisque voilà, c'est Kang Solgi, c'est une artiste coréenne, n'est-ce pas, qui nous vient du girl group Red Velvet, qui est un des groupes les plus expérimentaux de la grosse usine qui est SM Entertainment. Mm-hmm. SM Entertainment, c'est la plus grosse agence du pays. Peut-être plus maintenant, je sais pas, avec Hype, si, enfin en tout cas la plus ancienne et celle qui a le plus de groupes qui ont cartonné sur la planète depuis 20 ans maintenant. Mm-hmm. Plus de 20 ans d'ailleurs. Et c'est son premier solo, donc elles font à peu près toutes leurs débuts en solo les unes après les autres dans ce groupe-là. Et comme il y a un peu de talent, ça fonctionne pas mal. Et elle, elle est depuis très longtemps considérée comme une des meilleures vocalistes et de son groupe et de son, on va dire, de son panel. Il y a beaucoup beaucoup de talent dans la K-pop en général, même si c'est des fois on s'en rend pas compte. Mais elle, du coup, elle est. On savait que ça allait être intéressant, mais on savait pas quelle direction ça allait prendre. Et elle a sorti un single qui s'appelle 28 Reasons. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, parce que tu sais, d'habitude la K-pop, on est plutôt dans le sucré, plutôt dans le voilà, ou alors dans des beats un peu rigolos. Là, c'est hyper minimaliste. Le début, il est hyper surprenant. Ça fonctionne très bien. Le clip est également minimaliste mais hyper cinématique, avec une vraiment un taf sur la prise d'image qui est hyper intéressant. Et je suis très très fan. Tout l'album est sympa en plus. Enfin, souvent, il y a une faiblesse de ce côté-là, parce que même quand un artiste fait un début en solo, il y a un single cool quand t'as de la chance, un autre titre pas mal. C'est assez rare d'avoir un truc cohérent et où tout tient vraiment la route. Et là, franchement, bah, c'est pas mal du tout. Tu sens que la nana, elle est impliquée et qu'elle avait quand même une idée derrière la tête depuis le départ. Je vous ai linké donc le clip, l'album sur Spotify. Je n'ai plus les liens Apple Music sous la main. Et un petit post Asia Rebs que j'avais fait en mode fanboy sur elle, où il y a une autre vidéo qui fait une demi-heure à peu près, où il y a tout le process de création, en fait. Du titre, et c'est intéressant parce qu'en fait ils font beaucoup de réunions là-bas, j'imagine comme dans les autres pays en vrai, mais où ils se réunissent pour savoir quel type de fringue il va y avoir, tu vois, enfin, tout les concepts, raffiner les concepts, comment le clip doit s'orienter, etc. Et c'est assez rigolo de voir l'évolution de l'idée de base et puis le résultat final. Là tu vois, tu as toutes les réunions genre, bon, finalement cette idée c'est de la merde, mais finalement on ferait peut-être plutôt ça, serait plutôt rigolo. Donc c'est assez intéressant.
Okay.
Voilà, je vais vous mettre un petit extrait aussi parce qu'il n'y a pas de raison de 28 Reasons, et puis on se retrouve tout de suite. I kiss your brother, que ma mum cha. Tô kipojo, tô mon, nikyo ma pleasure. Tikwa jun banchik, tolli nun numpit. Kuron nol bonen ge cham, jemiso ukyo. I'm breaking every rule. 자꾸만 괴롭히고 싶은 걸. 28 reasons 몰라도 돼. 나쁜 의도 없어. 내게 28 reasons 다 아는데 왜 또 다시 내게 기대. 난 so clean. 무기력한 너를 봐. Feel so bad. 정글하게 보여줄게. I'm not the devil. 너부터 원망해. I don't care. 난 낮을수록 나를 원해. 28 reasons, donc de Solgi de Red Velvet. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, faites l'effort d'aller regarder le clip aussi, parce que c'est encore plus intéressant. Pas parce qu'il y a des gonzesses. Oh, quoique. Effectivement, j'ai oublié de préciser un truc pour vous motiver. Elle a peut-être sorti des fringues qui tuent aussi pour le clip. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, vous le savez.
Allez, on passe du côté de la tech avec ce qui est vraiment le feuilleton de l'année. Hein. Elon Musk va finalement racheter Twitter.
Eh oui, ça en prend le chemin, mon ami. Pour une raison extrêmement... j'adore, mais lui nous aura beaucoup fait rire. Pour une raison qui a l'air assez évidente pour les gens qui sont des spécialistes du droit aux États-Unis, qui disait qu'en fait, il avait aucune chance de gagner le procès, en fait.
Ouais.
Donc, a priori, ce qui se serait passé... c'est qu'il y aurait eu un procès avec déballage de plein de trucs que Elon Musk n'a pas forcément envie de sortir. Il y a déjà eu beaucoup de documents qui sont sortis et ça ne l'a pas mis en lumière d'une manière glorieuse, voilà.
Mm-hmm.
J'ai envie de dire, il n'a pas franchement... Enfin voilà, ça, si vous suivez un peu sa carrière, ça ne surprend pas trop. Hein. Mais là, du coup, ce que lui ont dit ses conseils, j'imagine, c'est « Écoute, Roger, mon petit Billy Bob, ce qui va se passer, c'est que là, de toute façon, on va aller au procès, ça va être long, chiant, cher, et à la fin, tu vas racheter Twitter. Donc, enfin, tu seras obligé. Donc, finalement, rachète tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. Donc, il rachète, en plus, l'offre qui a été faite, c'est l'offre au prix qui avait été décidée au départ, puisque de toute façon, il n'a pas le choix.
Ouais, ouais.
Et on est sur une blague, puisque tous les gens qui se sont exprimés sur le sujet expliquent, je regardais sur les sites américains, qu'en plus, ça se passe dans la cour du Delaware, cette histoire, et que si tu regardes les trucs, les affaires similaires qu'il y a eu, les mecs qui étaient dans la position de Musk n'ont jamais gagné.
Mm.
Si t'as décidé d'acheter et que t'as fait les manœuvres pour acheter un truc, et ben tu l'achètes, t'es gentil. Sinon, tu te fais défoncer. Donc, c'est exactement ce qui est prévu. Ça me fait beaucoup rire. Maintenant, écoutez la suite au prochain numéro.
Ouais, on va voir ce que va devenir Twitter sous le règne d'Elon Musk. Ça, c'est pas encore gagné, en revanche.
Exactement.
Allez, on va parler des Intel A770 et 750.
Oui, ce sont des petits numéros nouveaux maintenant dans ta vie. Ça vient d'arriver, on en a parlé un peu cet été. C'était les annonces. Là, il y a les premiers tests qui sortent dans la presse. Écoutez, les amis, comme prévu, c'est le bordel. Comme prévu, okay. C'est-à-dire que techniquement... Oui, ces nouvelles cartes Intel viennent effectivement, comme annoncé par Intel, se mettre en face des Nvidia RTX 3060. Mais comme anticipé par plein de gens, moi le premier, c'est pas le cas tout le temps. C'est-à-dire que globalement, quand ça se passe bien sur certains tests, eh bien, on a des résultats très corrects. Et puis, en fonction des settings et des jeux testés, eh bien, des fois, ça s'effondre et tu sais pas pourquoi. Mmh. L'autre truc aussi hyper important, c'est qu'en plus, c'est des cartes qui sont censées être pas trop chères, donc des options d'upgrade pour des PC assez anciens, ça serait sympa, etc. Et pas trop, en fait. Car il faut absolument avoir une option qui s'appelle Resizable Bar, le rebar. Le rebar. Okay. On en avait parlé, en fait, c'était une nouvelle option qu'on voyait sur les cartes mères AMD et Intel. Ça s'appelle aussi le Smart Access Memory. Il y a deux noms, en fait, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Mmh. On avait vu arriver ça aussi sur les cartes... Enfin, maintenant, c'est géré par les cartes AMD, Nvidia, etc. Mmh. Sauf que c'est des options. C'est-à-dire que si votre carte le gère pas, bon, bah, c'est pas dramatique. Si la carte a été prévue comme ça... Sauf que là, les cartes Intel, elles ont vraiment été prévues pour fonctionner, pour absorber des grosses parties de mémoire, des gros blocs d'informations les uns après les autres. Et donc, il faut que cette option existe sur votre matériel. Et du coup, bah, c'est pas disponible sur les trucs un peu anciens. Mmh. Ce qui n'est pas une bonne idée, du coup, puisque pour des cartes qui auraient pu faire des upgrades sympas, pas trop chers, c'est mal barré.
Eh ben, super, mais voilà encore bien.
Non,
bien
ça, il faut pas. Mais de toute façon, t'aurais dit non, parce qu'en plus, il y a une autre raison, c'est que, en plus, au niveau des. Si tu l'as pas, la blague, c'est que ça ne touche pas que les jeux. C'est-à-dire que tu mates une vidéo dans un browser, tu vas avoir des merdes sur ton écran.
C'est chouette.
Ça nous rappelle les heures sombres de la carte vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de bug, tu vois. Donc merci Intel de nous faire revivre voilà un peu de nostalgie de l'évolution du matos. Globalement, ce que disent les gens, c'est que effectivement on est sur un produit qui est hyper prometteur. On est assez content de voir que le marché un petit peu s'énerver finalement, et ça va avoir un impact et sur les évolutions et sur les prix, etc. Mais pas tout de suite, dans la mesure où là ça fonctionne quand même pas extraordinairement bien, et puis vraiment en fonction des jeux il y a des écarts hallucinants. Sinon, des fois, ça va chercher, ça dépasse une 3060 Ti.
Mmh.
Donc évidemment la 3060 est atomisée, et puis dans d'autres titres tu te retrouves avec des scores catastrophiques, donc ça va être un petit peu la loterie, et on attend de voir comment ça va se goupiller au niveau évolution du logiciel aussi chez Intel. Mmh. Puisque là il y a beaucoup de soft aussi qui voilà n'ont pas extraordinairement ébloui les premiers testeurs, donc nous allons voir comment ils vont faire évoluer ça sur la prochaine gamme, puisque normalement il y a ces Battlemage, je crois, le nom de code de la prochaine gamme, qui devrait être encore un peu plus violente au niveau spec. Donc ça sera peut-être l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça. En attendant, j'espère qu'ils vont faire des petits progrès sur la gestion de leurs drivers.
Et puis moi, je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé juste avant mon accident, en fait.
Ouais.
Un truc qui m'arrive jamais, c'est ça faisait un petit moment qu'en fait je lorgnais du côté des bureaux assis debout. Et c'est cher, en fait. Hein, on va pas se voiler la face. Ça coûte quand même un petit peu cher. Et donc du coup, quand t'es pas sûr de ton coup, c'est un peu compliqué. Et il se trouve que pour la première fois de ma vie, on m'a contacté en me disant tu veux pas parler des bureaux assis debout dans Torréfaction ? Et si non. Tu veux, on t'en envoie. Hein.
Ouais, parce que j'ai dit non, en fait. Hein. Moi, j'ai tiens à le dire. Parce qu'à la base, la meuf m'a couru après pendant deux moi et j'ai jamais répondu à son mail.
C'est pas gentil. Alors donc je m'excuse auprès de la pauvre Sienna qui attend depuis évidemment mon accident que je parle de ce fameux bureau assis debout qui m'a un peu sauvé la life en fait quand j'étais immobilisé avec le plâtre, parce que c'est vrai que c'est pas super confortable d'être assis avec un gros plâtre sur bah, sur les genoux en fait hein, littéralement. Donc quand tu peux te tenir debout, c'est quand même assez sympa. Puis du coup, ça m'a permis de tester le bureau assis debout en n'ayant pas à sortir la CB, ce qui était plutôt confortable aussi. Et je dois bien avouer que depuis, bah, je suis fan en fait. Je sais pas si toi c'est le cas, mais moi je sais que quand je bosse sur des choses créatives, quand j'écris, quand je fais de la musique, etc., j'ai souvent tendance en fait à réfléchir, à process, à réfléchir à voix haute en marchant en fait dans la pièce, en arpentant la pièce. Tu fais pas ça toi ?
Non.
Bah, moi
non,
je fais ça.
Non.
Et quand t'as un bureau assis, bah c'est un peu chiant parce que du coup à chaque fois il faut se rasseoir, faut écrire les notes, et puis il faut se relever, marcher dans la pièce, etc. Du coup, avec le bureau assis debout, quand il est en position debout, bah, pour moi, c'est super cool. Ça me permet de fonctionner de manière un petit peu plus optimale. Donc, je suis assez content. Et bah, voilà, globalement, FlexiSpot, c'est la marque qu'on m'avait recommandée un peu partout quand je me suis intéressé au sujet. Donc, bah, ça confirme un peu ce que tout le monde dit, comme quoi c'est un peu les meilleurs du marché. C'est super solide. C'est ultra facile à monter. C'était un peu aussi une angoisse pour moi qui suis pas du tout bricoleur et qui ai tendance à mal mettre les vis dans les mauvais trous. Là, pour le coup, en fait, c'est relativement simple à monter. Ça m'a pris à tout casser une heure, juste avant donc de me casser la gueule en trottinette. Donc ça, heureusement, j'avais fini avant. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vais vous linker en fait leur page. Ils font des promos bah, tout le temps, en fait. Hein. Là, pour le moment, il y a des réductions sur certains modèles et tout. Si je dois faire un reproche, mais ça c'est lié au modèle que j'ai, je pense que c'est la taille la plus grande de plateau et je la trouve un petit peu petite en fait. Moi qui avais l'habitude des grands bureaux Ikea, bah voilà, là je suis un petit peu plus limité. En revanche, ce qui est très bien, c'est que si tu veux, tu peux juste acheter en fait l'armature métallique et donc les moteurs et tout ça, et mettre ce que tu veux comme plateau dessus. Donc si tu veux récupérer ton plateau Ikea et le visser sur le truc, c'est relativement simple. Je crois que c'est ce que Fox a fait avec son bureau assis debout. Il a récupéré un plateau qu'il a greffé sur l'armature métallique, donc c'est tout à fait jouable. Et après, il y a une tétrachier d'accessoires que tu peux acheter, des passe-câbles, des machins. Deuxième chose qui est un petit peu bah, qui est liée au principe en fait, hein, c'est que si t'es comme moi habitué à avoir des cinquantaines de câbles qui tombent en fait du bureau vers le bas, bah là il va falloir un petit peu optimiser parce que forcément quand tu montes ton bureau, bah le câble il doit être un petit peu plus long et quand il est posé, enfin quand le bureau se repose en position assise, bah forcément tout ces câbles vont pendouiller derrière. Donc pour les maniaques du cable management, ça demande un petit peu d'anticipation quand même. Faut un petit peu prévoir le coup, essayer de voir un peu s'il n'y a pas moyen de faire différemment vos câblages pour éviter d'avoir 50 milliards de câbles qui se baladent. Mais bon, ça c'est lié un peu au principe du bureau assis debout. Sinon pour le reste, bah voilà, moi j'ai été convaincu. Je suis content d'en avoir un maintenant, mais c'est vrai que si vous avez l'occasion, testez quand même avant parce que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui auront vraiment jamais besoin d'être debout quand ils travaillent. Moi je trouve ça assez sympa pour tout
moi,
ce qui est réuni.
Déteste ça.
Voilà, bah, voilà.
Je déteste ça et en plus alors déjà en plus on a un vrai problème avec ces bureaux-là en France. C'est que déjà il faut qu'on trouve une autre dénomination que assis debout parce que assis debout c'est dégueulasse. Enfin je veux dire, ça ressemble à rien.
C'est pas super sexy effectivement.
Mais non, je suis vraiment pas fan du tout du concept. Et bon, en plus, il y a des études diverses et variées qui ont montré que tous les publics rédactionnels qui ont eu lieu il y a quelques années pour expliquer que c'était vachement mieux de bosser debout, etc. Bon, c'est quand même en boire, hein.
Je pourrais clairement pas bosser tout le temps debout, c'est certain, mais du coup c'est pour ça que le fait de pouvoir switcher en fait en fonction des besoins est intéressant, mais quoi. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de mythes autour des bureaux debout, hein, ça c'est
genre
certain.
Oui, si vous restez assis vous allez mourir, oui, bah si vous restez debout à la même place vous allez mourir aussi en fait, donc voilà. Et j'ai une mauvaise nouvelle, enfin, ça finit mal à la fin l'histoire, hein, quand même, de toute façon, quoi,
c'est clair.
Et voilà, quelle que soit votre position. Plus sérieusement, oui, je suis pas ultra fan du concept, mais derrière l'avantage en fait c'est justement de pas avoir à choisir. Et il y a des gens qui ont effectivement ce besoin en fait de varier les positions.
Ouais.
Et ça effectivement, le fait de ne pas avoir à rester assis, je parle d'un point de vue physique, ça vous obligera effectivement à plus bouger, etc. Si vous voulez pas vous niquer, si vous avez des problèmes de colonne, si vous avez besoin un petit peu de ne pas rester bloqué dans la même position, c'est la meilleure solution. Et là-dessus, il y a pas de souci. Et effectivement, eux, ça a l'air pas mal. Le système de commande, t'en as pas parlé, mais du coup, ça prend combien de temps pour changer de position là ?
Ça prend une dizaine de secondes à tout casser, en fait. Même pas, en fait. C'est assez lent. Et alors, ce qui est bien, c'est que forcément, quand il arrive en position finale, ça ralentit un peu. Donc, t'as pas de choc. C'était un peu ma crainte aussi, c'est que tout commence à balancer dans tous les sens. Donc, c'est vraiment très, très smooth. Voilà, là, moi, je m'en sers typiquement, en règle générale, quand je bosse, je suis assis. Quand je suis en mode un peu réflexion, j'ai tendance à être debout. Mais alors, là, j'avais acheté, il y a pas très longtemps, un contrôleur pour mixer. Et ben, ce qui est pratique, c'est que je peux le mettre sur mon bureau directement. Je peux surélever le bureau. Et je peux bosser et commencer à mixer debout sur mon contrôleur
comme
sans
si
avoir besoin d'avoir un meuble
la foule.
À côté. En plus, voilà, tu vois, donc c'est l'avantage aussi pour ce genre de configuration. Mais j'insiste quand même, c'est pas pour tout le monde, donc et c'est quand même un sérieux budget. Donc si vous êtes hésitant, moi je vous conseille quand même de faire le test d'abord chez un pote si vous en avez un qui a ça, de tester un peu ce que ça donne en position debout. Parce que sinon, si c'est pour qu'il reste en position assise tout le temps, ça vaut pas trop le coup d'aller débiter plusieurs centaines d'euros pour avoir un modèle. Qui monte et qui descend.
Ouais. Si tu regardes les tarifs même des bureaux, c'est une problème de plateau. C'est-à-dire que pour les budgets équivalents, vous aurez des bureaux fixes avec des plateaux un peu plus grands, etc. Ouais, ouais. Donc,
encore une fois, tu peux mettre ton plateau et comme le truc peut gérer 125 kilos, tu peux déjà y aller pour mettre des trucs sur une grande surface, quoi. Donc,
t'as pas vu la gueule de mon bureau custom. T'as pas vu la gueule de mon bureau. C'est pour ça que déjà, moi, ça m'arrange de pas kiffer parce qu'en plus, j'ai effectivement un bureau sur mesure à la maison et. Il est grand, l'enfoiré. C'est-à-dire que, et puis il est lourd, puisque c'est du bois massif. Et et puis j'ai des choses. Genre, moi, je suis un mec pas fin, donc tu vois, j'ai mes écrans et tout mon bordel. Mais j'ai par exemple une imprimante qui pèse une tonne planquée derrière mes écrans, tu vois. Alors, je pense que je suis pas à 125 kilos, clairement. Mais c'est toujours impressionnant et j'ai pas envie de faire le test là tout de suite. En fait, déjà, tu vois, quand je me dis, ah, allez, changer de bureau, je regarde le bordel sur mon bureau et je me dis.
Oui, c'est pour ça que j'ai mis un certain temps à le faire aussi. Et coup de bol, je l'ai fait vraiment juste pile poil avant de me casser la gueule. Mais c'est vrai que le carton était là depuis déjà quelques semaines. Et j'ai quand même pris un certain temps avant de me dire, je vais le monter et je vais devoir réfléchir à comment je vais câbler tout ça.
Donc, si vous voulez nous contacter pour des publis rédactionnels, sachez que ça prendra un certain temps. Et en plus, on dira peut-être que c'est pas bien. Donc attention. Hein. Donc, ça va, c'est cool.
Cela dit, j'avais prévenu. Hein, j'avais dit, vous pouvez m'envoyer le bureau, mais si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Hein. Bon, il se trouve que ça me correspond bien, donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que
truc que t'as pas dit, c'est que le plateau, l'avantage c'est qu'il est dispo en plein de finitions différentes.
Ouais,
et
tout
ça
à fait.
C'est plutôt intéressant.
Enfin, il y a une dizaine de types de finitions différentes. Il y a plusieurs tailles dans chaque type de finition. Et alors ils sont perforés en fait. Enfin le plateau que moi j'avais était perforé. Aux endroits où passent les câbles d'enceinte en fait, donc ça c'est super pratique aussi pour mettre tes petites enceintes, donc il y a plein de trucs.
Il y a du choix, mais si vous prenez la finition marbre on se parle plus. Hein.
Ça c'est clair, ça c'est pas possible.
Très bien, voilà. Démerdez-vous. Bon, allez.
Allez, on continue cette section tech avec, il y a eu quoi de, c'est pas encore les annonces Google. Il y a d'abord Xiaomi qui a fait des annonces aussi.
Ouais, alors c'est une annonce sans être une annonce. C'est juste pour vous linker une petite news qui m'a fait beaucoup rire parce que effectivement, il y a plein de gens qui se sont dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est nos amis, c'est Xiaomi qui sortent un nouveau smartphone. Quelle surprise. Donc, ils sortent le 12T Pro. Sachant qu'au début de l'année, ils ont sorti le 12 Pro. Et là, tu te dis, mais le 12T Pro qui vient de sortir, enfin, qui va sortir, là, hein, c'est ça, dans sous peu, le 8 octobre ou le 13, j'ai un doute, là, le 8, je crois, il coûte 800 euros. Le 12 Pro, quand il est sorti, il était à plus de 1000 euros. Mmh. Et là, tous les marchands viennent de mettre le 12 Pro, du coup, à 800 balles. Mmh. Et du coup, tu te retrouves devant un choix cornélien. Qu'est-ce que je prends entre le 12 Pro et le 12T Pro? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bon, je fais même pas de vanne sur le fait qu'il y a des gens qui ont acheté le 12 Pro au début de l'année à 1100 euros pour être précis, et qui du coup se doivent être super contents.
Mais tu m'étonnes.
Sachant qu'il y avait en plus des problèmes d'autonomie, il chauffait un petit peu parce que il avait le Snapdragon qui était pas extraordinaire, qui était déjà largement critiqué à ce niveau-là. Mm-hmm. Et du coup, ils ont fait plein d'évolutions sur le 12T Pro et il sort moins cher, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Alors moi, je vais vous aider, la question elle va être vite répondue, les amis. Parce qu'en fait, là, il est en préco, le 12T Pro, pour 800 euros. Si vous cherchez un téléphone Android un peu haut de gamme, il doit cocher à peu près toutes les cases importantes. Et en plus, vous avez une tablette à 300 balles avec.
Okay.
Sur les précos, hein, je précise, attention, hein, c'est pas tout le temps, donc faut aller checker si votre offre Fnac, etc. est valable. Il y a évidemment à chaque fois il y a marqué dans la limite des trucs disponibles.
Ouais, ouais, ouais.
Ça serait bien d'être dedans, les gars. Donnez-nous un peu plus d'infos. Mais vous allez voir qu'ils ont fait plein de petites modifications sur le téléphone. Je vais pas toutes vous les citer, mais en gros ils ont fait beaucoup de changements sur le module photo, avec un passage à 200 millions de pixels. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a plein au lieu de 50, mais en fait, il y avait plusieurs modules un peu plus haut de gamme sur l'autre. Et là, ils ont vraiment tout mis sur ce module principal. Au final, ça change pas grand-chose. Les gens qui ont fait les premiers tests ont l'air d'être assez contents. Il n'y a eu que des prises en main, il n'y a pas eu de test complet pour l'instant. Voilà. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une batterie de 5000 mAh. Donc, on est sur une batterie qui devrait tenir beaucoup plus longtemps que l'ancienne, qui était à 4500 ou 4700, un truc comme ça. La différence, comme ça, elle n'est pas énorme. Mais comme ils ont changé également le Snapdragon, qui est un 8 Plus Gen 1 maintenant, qui chauffe moins et qui consomme un petit peu moins, normalement, on va retourner sur des autonomies à peu près correctes. En tout cas, ça fait un flagship à 800€. Enfin, en tout cas, pas loin du flagship standard, c'est relativement abordable. C'est une bonne nouvelle, car nous allons parler d'autres téléphones dans ces prix-là, là tout de suite.
Bah oui, donc les annonces de Google, du coup, avec les pixels.
Ouais, on est hyper surpris que Google annonce les Pixel 7 et 7 Pro qui ont leaké partout sur Internet depuis 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. Donc ça y est, on a les prix, c'est les mêmes que pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, donc on n'a aucune surprise, on est sur du $600 et $900 respectivement. Les prix français, je les ai pas, j'ai pas été vérifié, je n'ai pas bien fait mon travail, mais je crois que je les ai pas vus, en fait, surtout pour l'instant. Va être un petit peu raisonnable avec l'inflation et puis le prix du dollar par rapport à l'euro en ce moment. Il y a moyen qu'on prenne un taquet par rapport au prix du Pixel 6, mais dans quelle mesure, je ne sais pas encore. Donc, à voir. Je vous ai linké une page qui résume toutes les spécificités du 7 et du 7 Pro. Il n'y a pas de test, encore une fois, ce sont juste les annonces Google. Le truc le plus important dans l'histoire, vu que les téléphones ressemblent très, très, très fortement à la génération d'avant, c'est qu'on passe sur le nouveau système on chip de chez Google, qui est le Tensor G2. Cette fois, on n'a pas les bench tiers faits tranquillement de mon téléphone, etc. Mais normalement, on devrait avoir un téléphone très puissant, mais le Tensor G était dernier de tous les benchs sur les flagships, en fait.
C'est ballot.
Alors, c'est ballot parce que le problème, c'est que les benchs, ils sont faits pour faire certains types de calculs. Et le Tensor G, là, en fait, il intègre des trucs qui sont un peu spécifiques pour, surtout côté machine learning, etc., gérer des fonctionnalités qui sont pas faciles à bencher, tu vois. Donc globalement, est-ce que la performance globale du téléphone est réellement impactée ou pas, c'est pas évident à dire, donc faudra attendre les tests complets. Ils ont annoncé quelques trucs qui sont spécifiques en fait à ce nouveau Tensor G2 qui sont un peu rigolos. Il y a une fonction Unblur pour les gens qui savent pas prendre des photos. C'est-à-dire vous prenez des vieilles photos, vous qui sont un peu floues, vous les passez dans cette moulinette Unblur et ça va les rendre nettes.
Ok.
Merci le machine learning.
J'aurais bien pu avoir besoin de ça quand j'étais plus jeune. Moi.
Voilà. Alors la démo est assez bluffante. Maintenant, il reste à voir comment ça va se goupiller dans la vraie vie. Hein. Et ils ont annoncé un truc qui va faire plaisir à plein de gens, qui est la traduction en texte automatique de tous les messages audio. Car vous avez tous des contacts pro ou des potes relous qui vous envoient des messages audio au lieu de vous envoyer des textes, et qui vous obligent en fait à vous concentrer pendant 5 minutes pour rien vous dire.
Moi j'en ai pas encore, je touche du bois.
Alors moi dans mes amis j'en ai pas, parce que sinon c'est plus des amis, voilà. Mais dans mes contacts de boulot j'en ai quelques-uns, oh, et qui t'envoient des WhatsApp audio et voilà. Cela dit, bon courage au Tensor, j'ai vu les accents de certains, je pense que ça sera rigolo lorsqu'il y arrive. Mais donc voilà, c'est une fonction qui peut être intéressante quand même, mais ça c'est des trucs qui sont limités en fait au Tensor G2, donc ce système de reconnaissance. Ça ne marche même pas avec les Pixel 6. Et puis pendant la présentation, apparemment ils ont fait 2-3 vannes côté Apple en disant oui, c'est bien d'avoir Crash Detect et tout, c'est les trucs qu'on a depuis 1000 ans, blablabla. Donc ils font leurs petites vannes, et juste après ils annoncent le Cinematic Mode sur la photo, enfin plein de trucs Apple en fait qui viennent de copier. Donc franchement les gars, on sait que vous vous copiez tous, mais ne fais pas des vannes pendant ta presse si c'est pour copier un truc juste après, t'es ridicule quoi.
C'est clair.
Putain, mais quelle bande de tocards, je te jure. Ça me fait vraiment délirer. Donc je vous laisse avec plein de petites lectures. Vous avez dans le biais qui accompagne le podcast un grand tableau qui compare toutes les fonctionnalités et toutes les specs des Pixel 7, 7 Pro, 6 et 6 Pro pour savoir, et du 6A même, pour voir un petit peu ce qui a changé. Vous allez voir que bon, il n'y a pas énormément de diff, mais voilà, le système en chip ayant complètement changé, il y a une caméra aussi sur la caméra de selfie qui a changé, etc. Faire tout le détail dans un podcast, c'est chiant. Aller lire un tableau, c'est plus pratique, donc faites ça. Mais en tout cas, on attend les tests avec impatience, mais je pense que le produit devrait être assez correct. Et puis derrière, on va parler vite fait de la Pixel Watch. Car en fait, c'était un event Google complet, donc il y avait beaucoup d'annonces. Et cette Pixel Watch, il y a des gens qui sont hyper fans. C'est une montre, alors c'est chiant, parce que c'est vraiment une question de goût. Moi, je la trouve hyper moche. Je déteste la Pixel Watch, mais en même temps, j'aime bien l'Apple Watch. Et je sais que plein de gens détestent l'Apple Watch, donc ils vont peut-être adorer la Pixel Watch. On est sur un format qui est complètement rond, avec une vraie protubérance là pour la crown, la digital crown qu'ils ont piqué à Apple. On est sur un prix annoncé de $350 avec la version Bluetooth GPS intégrée et la version qui aura pas le LTE, qui aura pas la connectivité 4G 5G, ça sera $50 de moins. Très honnêtement, j'attends de voir les tests parce que là pour l'instant c'était juste une prise en main. Moi, le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est de voir que la montre est basée sur un Exynos 9110 qui est un chip Samsung qui était intégré en fait à une montre de 2019 chez Samsung. Voilà, donc on est quand même pas sur un truc ultra haut de gamme, c'est quand même pas donné, donc j'attends les tests. Pour l'instant, je ne suis pas extrêmement impressionné. Les gens ont l'air d'être assez fans de la gueule du truc, mais si vous regardez un peu les cadrans, etc., effectivement, ça change. Il y a de quoi avoir des trucs sympas, mais je suis toujours un petit peu circonspect sur les interfaces qui sont vraiment dédiées à des écrans ronds, en fait. C'est vite chiant au niveau design, tu perds quand même beaucoup de place, donc on verra ce que ça donne. Et puis, ils ont aussi confirmé que la Pixel tablette était toujours prévue. Donc, ils vont refaire des tablettes, on en avait parlé. Mais c'est Google. Donc, voilà, ils commencent des trucs, ils finissent. C'est ça. Voilà. Et cette Pixel tablette, on n'a toujours pas de date, on n'a toujours pas de prix. On sait qu'elle sera basée sur le Tensor G2 aussi et qu'elle devrait sortir à un tarif relativement bas. Mais bon, voilà, toujours est-il qu'on n'a pas plus d'annonces que ça pour l'instant. J'ai oublié de vous dire au début du podcast qu'on avait quand même cette semaine enterré Stadia officiellement.
C'est vrai, ouais.
Je crois que j'en ai pas parlé la semaine dernière, il me semble pas en tout cas. Bon, en tout cas, Stadia, c'est terminé. Et ce qui était intéressant, c'était de voir des gens revenir, en fait, et sortir du bois, en fait, des ex-Googlers en train d'expliquer pourquoi, écoutez, les mecs chez Google, c'est souvent la merde. Parce qu'apparemment, il y a une culture d'entreprise qui est un classique, mais qui est poussée à l'extrême chez Google, qui vraiment fout la merde. Qui est qu'en gros, si tu n'es pas quelqu'un qui a lancé un produit chez eux, c'est impossible d'avoir une promotion. Donc, en gros, les mecs se bastonnent pour pouvoir lancer des produits, quels qu'ils soient.
Tout s'explique.
Voilà. Et puis, dès que le produit est lancé, et puis, en plus, il n'y a pas vraiment de pression mise sur le truc. Par exemple, si tu lances un produit et que ça marche pas et que c'est un peu de la merde, etc., tu te fais pas défoncer, en fait. T'as lancé un truc, c'est cool. Bravo, Bob. On est content. Donc, vas-y, prends ce nouveau job. Et apparemment, ça se passe comme ça très, 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 très souvent. Et du coup, c'est une catastrophe, puisque dès que les mecs lancent un truc, ils se barrent, en fait. Ouais. C'est ce qui se serait passé sur plein de projets assez ambitieux chez Google. Alors, les mecs se mettent vraiment à donf sur un projet, lancent le bordel, et derrière, ils se barrent tous. Et du coup, il n'y a plus personne, en fait, pour corriger les bugs, faire évoluer le produit, etc. Et ça finit par crever. C'est aussi ce qui explique pourquoi on a eu 54 applications de visio chez Google qui se concurrençaient les autres. On se disait, mais c'est stupide, les gars, pourquoi vous faites ça? Voilà, c'est un élément de réponse. C'est à peu près ce qui se serait passé chez Stadia. Il y a plein de mecs qui étaient hyper chauds pour le projet. Ils ont lancé le truc en disant, voilà, techniquement, on va faire ça, ça va être génial. Et puis, il y a des gens qui sont occupés de la stack technique, des serveurs, etc., des intégrations. Ouais, on va faire ça avec YouTube, ça va être génial, gna gna gna. Et en fait, il y a plein de trucs qui n'ont même jamais été développés par rapport aux annonces initiales. Et puis c'est pas grave, personne n'a été impacté, en tout cas on n'en sait rien, mais a priori c'est ce qui se dit. Il y a eu beaucoup de posts en ce sens cette semaine sur les différents réseaux sociaux et par les infos que j'ai eues par des gens ne révélerons pas nos sources. C'est un classique. Ça fait très longtemps que c'est comme ça chez eux. Et ça serait un problème endémique, effectivement, s'ils ne règlent pas ce souci en termes de management RH. bah ils vont au devant de pas mal de problèmes, et c'est aussi ce qui explique au niveau hardware qu'ils lancent et qu'ils abandonnent autant de trucs. C'est plus marquant quand c'est du hardware finalement que quand c'est du soft, parce que tu te dis bah j'ai ce truc là chez moi puis il y a plus d'update et puis tout le monde s'en fout et ça marche pas. Mais bon, quand c'est du software, ça peut être hyper chiant aussi, mais bon, les Google Wave et compagnie, on les a pas oubliés, hein. Je crois que sur la page la plus à jour des cimetières Google, il y a plusieurs sites, hein, qui sont, ouais, genre les Google Cimetières, mais il y en a une seule qui est vraiment, vraiment à jour. Je crois qu'ils en sont à 250 produits.
Oh, vache.
C'est pas mal. 250 produits et services de décédés, c'est beaucoup, même quand tu t'appelles Google. Donc, voilà, écoutez, à suivre. En tout cas, cette tablette Pixel, elle sort en 2023. On verra si c'est la dernière ou s'ils vont vraiment faire des choses cette fois autour d'Android pour que cette taille d'écran soit réellement utilisée.
Et c'est la fin de ce 231e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin à 8h pour les autres. Et moi, en tout cas, je suis très content de vous retrouver et je suis impatient de vous retrouver déjà la semaine prochaine aussi.
Oui, tout pareil. Bonne soirée à bientôt. Bonne soirée, que je dis bonne journée. J'ai plus l'habitude, tu vois.
C'est ça, oui. On sent encore les...
Moi, ça fait 6 semaines que je le fais en live.
Les habitudes de Twitch, oui. Oui, je me doute, oui.
Voilà, d'ailleurs, il va falloir que je trouve. Hein, voilà, moi, demain soir, je fais relâche, mais... je vais vous retrouver des trucs à faire en live. Vous inquiétez
très bien.
Pas. Je vais les occuper, ces braves.
Et merci encore évidemment à nos abonnés Patreon de nous soutenir. C'est grâce à eux qu'on fait des podcasts aussi. Hein,
évidemment, évidemment.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
À plus.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.